Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. RDC, 6 accords ratifiés pour projets prioritaires à l'Assemblée nationale. Sécurité, santé, énergie, développement rural et infrastructure franchissent une nouvelle étape. Kindu célèbre la journée mondiale du Swahili. Appel du professeur Expedi Kabunga Mayuka à valoriser et promouvoir cette langue désormais reconnue comme internationale. Journée mondiale du Swahili célébrée en RDC, une langue internationale au cœur de la vie quotidienne et des échanges mis en lumière par le professeur Bagamba Arali qui est l'invité de ce journal. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Sécurité, santé, énergie, développement rural et infrastructure, plusieurs projets jugés prioritaires pour la RDC franchissent une nouvelle étape. L'Assemblée nationale a adopté ce lundi 6 projets de loi autorisant la ratification d'accords conclus avec des partenaires internationaux. Ces textes ouvrent la voie à la mise en œuvre de nouveaux programmes de financement et de coopération dans plusieurs secteurs clés du pays. Les détails avec Grace Hamzati, notre permanent au Parlement.
Le premier texte adopté porte sur un accord de coopération en matière de sécurité entre la RDC et la Turquie. Il prévoit un renforcement de la collaboration entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme, les réseaux criminels internationaux, la cybercriminalité, le blanchiment des capitaux, la traite des êtres humains ainsi que le trafic de stupéfiants et d'armes. Les députés ont ensuite adopté 5 autres accords de financement destinés à soutenir plusieurs projets de développement. Ils concernent notamment la construction des complexes hospitaliers dans la nouvelle ville de Kinshasa, le développement rural, l'électrification des zones rurales et périurbaines grâce aux mini-réseaux solaires et hydroélectriques, l'installation d'incubateurs pour les petites et moyennes entreprises agricoles, ainsi que la modernisation et l'extension de l'aéroport international de Luano à Lubumbashi. Les 6 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des députés présents. L'accord de coopération sécuritaire sera transmis au Sénat pour une seconde lecture, tandis que les 5 accords de financement seront envoyés au président de la République en vue de leur promulgation.
Restons dans le sillage du Parlement. Conflit entre assemblées provinciales et gouvernements provinciaux, difficultés de gouvernance locale, faible mobilisation des ressources, plusieurs provinces congolaises sont confrontées à des crises institutionnelles récurrentes. Pour tenter d'y apporter des réponses, les présidents des assemblées provinciales sont réunis depuis ce lundi à Kinshasa à l'occasion de la conférence des présidents des assemblées provinciales. À l'ouverture des travaux, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, a appelé à faire de la décentralisation une réalité à travers des solutions concrètes. On l'écoute dans ses propos recueillis par Grace Hamzati.
Nos provinces connaissent des crises entre assemblées provinciales dans le souci de permettre à nos provinces de relever des défis liés à la gouvernance locale, à la stabilité institutionnelle et à la mobilisation efficace des ressources financières. Les travaux des présentes assises seront organisés autour de 4 chantiers prioritaires. Établir un état de lieu sans complaisance de la gouvernance dans nos vastes provinces, proposer des mécanismes efficaces pour prévenir et résoudre les crises institutionnelles, harmoniser nos actions afin de mieux défendre les intérêts des provinces et l'éco-nationale, renforcer les capacités des élus provinciaux et locaux pour une gouvernance de proximité proche du citoyen. Je forme le vœu que ces assises sortent des résolutions fortes, des recommandations applicables et un engagement ferme à faire de la décentralisation une réalité vécue par tous.
Pendant ces temps, en Ituri, les activités ont repris normalement ces mardis au centre de traitement d'Ebola de Rwampara à la périphérie de Bounia. Cette reprise intervient au lendemain de la manifestation de plusieurs prestataires de la riposte qui réclament le paiement de leurs primes ainsi qu'une amélioration de leur rémunération et de leurs conditions de travail. Deux mouvements de mécontentement sont également signalés dans d'autres structures engagées dans la prise en charge des maladies d'Ebola, une situation qui inquiète plusieurs habitants, lesquels craignent que ces perturbations n'affectent la qualité des soins. Ils appellent les autorités sanitaires et les personnels de santé à privilégier l'intérêt des patients. Isaac Remoyope, reportage.
Alors que l'épidémie d'Ebola continue de progresser en Ituri, des tensions persistent au sein du personnel engagé dans la riposte. Plusieurs prestataires de santé dénoncent les non-paiements de leurs primes, des disparités dans les rémunérations ainsi que des conditions de travail qu'ils jugent difficiles. Selon les dernières données de l'OMS publiées le 6 juillet, la province d'Ituri a déjà enregistré 1561 cas confirmés d'Ebola, dont 506 décès. Après les perturbations enregistrées lundi, les activités ont repris normalement ce mardi matin au centre de traitement d'Ebola de Rwampara, situé à une douzaine de kilomètres de Bunia. La veille, plusieurs agents de la surveillance épidémiologique avaient manifesté en érigeant des barricades et en incendiant des pneus pour réclamer leurs droits. Selon plusieurs sources, des discussions sont en cours entre les représentants des prestataires et les responsables de la riposte afin de trouver une solution. À Bunia, plusieurs habitants appellent les deux parties à faire preuve de responsabilité afin que les malades ne soient pas les premières victimes de ces différends. Rappelons que dans un mémorandum adressé au gouverneur de l'Ituri, les prestataires de la riposte ont accordé un délai de 48 heures à la coordination nationale pour répondre à leurs revendications. À défaut, ils menacent de lancer de nouvelles actions de protestation. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
La journée mondiale de la langue swahili est célébrée ce 7 juillet à Kindu, dans la province du Maniema. Le linguiste et spécialiste des langues, le professeur Expedi Kabunga Mayuka, appelle à une grande valorisation de cette langue. Selon lui, le swahili, au-delà d'être une langue africaine, est aujourd'hui reconnu comme une langue internationale. Il encourage chacun à apprendre à bien parler et à bien écrire le swahili afin de contribuer à sa promotion et à son rayonnement. Le professeur Expedi Kabunga Mayuka s'est confié à Florence Kizalunga. On l'écoute.
C'est tout à fait normal qu'une journée soit consacrée à la langue swahili au regard de l'importance de cette langue. Il faut savoir que le swahili est une langue née en Afrique orientale par suite des contacts entre les Arabes et les langues bantoues parlées dans cette partie de notre continent. Alors les transactions commerciales ont fait que il y ait nécessité de communication entre les Arabes et les populations bantoues et la langue swahili est ainsi née. Non seulement c'est une langue africaine, mais il vaut la peine que cette langue ait toute une journée qui lui soit consacrée parce que c'est la langue africaine la plus parlée. Si on prend une à une les langues africaines, celle qui compte le plus grand nombre de locuteurs, c'est le swahili. Elle n'est pas restée en Afrique seulement, c'est devenu aujourd'hui une langue internationale. C'est une langue de culture, il y a des publications qui sont faites en swahili, vraiment une langue importante. Conseil à tous, c'est de prendre le swahili à sa juste valeur. Donc, faut pas croire que c'est une langue des indigènes, c'est une langue internationale à respecter et à prendre comme telle.
Restons dans la province du Maniema où plus de 1200 enseignants issus d'au moins 50 écoles de la ville de Kindu dans la province éducationnelle Maniema 1 attendent toujours leur identification à la Robank. Dans une interview accordée à Radio Kapi lundi, ces enseignants dénoncent leur transfert vers une autre banque sans information préalable. Ils regrettent également de ne pas avoir encore perçu leur salaire du mois de juin et craignent de subir les mêmes retards pour celui de juillet. De son côté, la Robank rassure que l'opération d'identification soit achevée dans un délai de 2 semaines. Reportage de Florence Kizalunga.
Sous un soleil accablant dans les couloirs et aux différents coins du bâtiment de la Raubank, des centaines d'enseignants patientent en attendant leur identification. Une situation qu'ils qualifient de nouveau calvaire.
Payé depuis plus de 8 ans chez Tembe, aujourd'hui on nous désaffecte ici à la Raubank, sans nous aviser. Plus de 2 semaines que nous faisons des va-et-vient ici, sans être enregistrés. Nous interpellons les autorités pour qu'ils s'emparent de la situation, avant que le pire n'arrive.
Pour la DINACOPE, Direction Nationale des Contrôles de la Préparation de la paie des enseignants. Il s'agit d'une simple réforme visant à mieux organiser le paiement des enseignants. Son directeur, Ngandoumana Lukengu, invite les concernés à garder leur calme.
Auparavant, lorsque les enseignants touchaient les salaires, pouvaient trouver des enseignants payés à la banque Tembe, les autres payés à la Robank. Maintenant, pour mettre fin à ces désordres-là, l'État congolais a voulu réunir tous les enseignants d'un établissement à une seule banque pour qu'ils soient payés sur la même liste là et aussi à une banque donnée.
Contacté à ce sujet, les gérants de la Raubank appellent les enseignants à l'apaisement. Alain Alimansi leur garantit que l'opération d'identification sera finalisée et que la situation sera régularisée dans un délai de moins de 2 semaines. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Éducation encore au Nord Kivu, la vulnérabilité des centaines d'enfants inscrits à l'école primaire et à l'Institut Munigi dans les territoires de Nirangongo a fortement marqué l'année scolaire 2025-2026. À sa clôture, ces élèves orphelins de guerre ou issus des familles démunies n'ont pas pu obtenir leur bulletin scolaire. Face à cette situation, l'ONG Femmes Unies pour le développement endogène et intégral lance un appel à la solidarité pour soutenir leur prochaine rentrée scolaire. Sa coordinatrice, Rachel Mouloulou, sollicite notamment des dons en kit scolaire et en kit d'hygiène pour les filles. Elle est au micro de Bernardine Diambo.
Nous demandons à toute personne de leur venir en aide. Beaucoup d'enfants n'ont pas de kit scolaire. Beaucoup de filles ont même présenté leurs besoins à kit hygiénique. Ces enfants sont tellement vulnérables et que n'ont pas pu retirer même leur bulletin à l'école. Donc, c'est vraiment un cri de plaidoyer pour venir en aide ces enfants qui sont dans les besoins. Ces enfants courageux qui veulent étudier, mais ils sont dans l'insuffisance à cause de la vulnérabilité. N'ont pas de cartables, n'ont pas de kit scolaire, que ces enfants ont commencé l'année scolaire d'ici deux mois, en ayant déjà les kits scolaires, des structures peuvent prendre en charge 5 ou 10 enfants pour payer les dettes de l'année passée, soit les années antérieures, soit supporter l'enfant toute l'année, même au niveau de l'école primaire et secondaire. Donc ce sont des cris d'alarme que nous lançons, vu le courage de ces enfants-là.
Près de 7 ans après la fin du conflit de Kamuina-Sampou, le souvenir de cette guerre reste encore douloureux dans l'espace kassaïen. De nombreuses familles continuent de pleurer des proches tués dans des circonstances tragiques. Opposant les forces de sécurité aux miliciens de Kamuina-Sampou, entre 2016 et 2019, ce conflit a fait environ 5000 morts selon les Nations Unies. Pourtant, plusieurs auteurs présumés des exactions commises durant cette période circulent encore librement. Dans la province du Kassai, l'Association nationale des victimes du Congo, ANVC, sort de son silence et réclame justice pour les victimes et leurs familles. Le point avec André Katende Ngalamolomé.
À partir de 2016, le milicien de Kamuina-Sampou ont sémé la terreur dans cette province. Meurtres, viols et destruction des biens faisaient partie du quotidien des populations. Aujourd'hui, la région a retrouvé son calme, mais les blessures laissées par la guerre demeurent profondes.
J'ai perdu une femme, elle a été décapitée par la milice de Kamuina-Sampou. Je suis resté avec 5 enfants. Je suis en train de passer une situation désastreuse.
À Chikapa, ces témoignages sont nombreux. Les familles des victimes tuées réclament justice et réparation. Pour témoigner de sa solidarité envers les familles endeuillées, l'Association nationale des victimes du Congo a organisé les 3 et 4 juillet 2 journées de commémoration. Une initiative appuyée par le Fonds de réparation des victimes des violences liées au conflit et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV. Placée sous les thèmes mémoire, vérité, justice et réconciliation, cette commémoration visait à honorer la mémoire des victimes et plaider pour que justice soit faite en leur faveur. C'est ce qu'explique Franck Chulomba, coordonnateur provincial de l'ANVC. Pour les responsables de l'association, une véritable justice passe par l'identification, les jugements et la condamnation des auteurs des crimes commis durant les conflits. Kananga, André Katende Ngalamulume, Radio Okapi.
En plus bref, un policier a été tué lors d'une attaque menée par des hommes armés non identifiés. Selon des sources locales, l'incident s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi au village de Luambo, dans le territoire de Kambov, province du Haut-Katanga. L'administrateur du territoire de Kambov indique qu'une jeep de l'entreprise minière China Nonferund Metal Mining, qui transportait des policiers chargés de la sécurité de la société, a été prise pour cible par des bandits armés. Après un violent échange de tirs, un policier a été tué et le véhicule incendié par les assaillants, précise l'autorité territoriale. Francis Kalongo ajoute que le corps de la victime a été acheminé à Kambov. Les 3 autres policiers ayant survécu à l'attaque se trouvent actuellement à l'état-major de la police nationale congolaise, où une enquête a été ouverte.
Actualité internationale.
Le président béninois Romuald Ouadani était en visite officielle en Mauritanie où il s'est entretenu avec son homologue Mohamed Ould Ghazouani lundi 6 juillet 2026. Si la rencontre n'a débouché sur aucune grande déclaration, elle a donné lieu à des discussions denses centrées sur la sécurité régionale et la recherche de nouvelles alliances alors que le Bénin subit la menace terroriste et entretient des relations complexes avec certains de ses voisins sahéliens.
L'invité.
Le 7 juillet de chaque année est consacré à la Journée mondiale de la langue swahili. Instituée par l'UNESCO, il est parlé par des dizaines de millions de personnes et s'impose comme une langue de communication, d'intégration régionale et de transmission culturelle. En RDC, où il figure parmi les quatre langues nationales, le swahili occupe une place importante dans la vie quotidienne et dans les échanges entre les populations. Pour en parler, nous recevons le professeur Bagama Arali, consultant international et sociolinguistique. Il s'entretient à ce sujet avec Jean-Claude Lokidile.
Bagama Arali, bonjour.
Bonjour.
Première question, professeur Bagama Arali, pourquoi le 7 juillet est-il consacré à la Journée mondiale de la langue swahili?
Oui, comme vous l'avez dit, c'est une langue qui a attiré l'attention de la communauté internationale à cause de sa vocation internationale. C'est la seule langue qui est parlée par presque 300 000 personnes en Afrique. Et bien sûr, on a les langues Fulfulde, mais le Swahili occupe le plus grand nombre de pays, presque 12. Et l'ONU a voulu qu'on puisse attirer l'attention de la communauté africaine sur cette langue.
Le Swahili est aujourd'hui parlé par des dizaines de pays, voire des centaines, des millions de personnes à travers le monde. Selon vous, qu'est-ce qui explique un tel rayonnement?
Le Swahili s'est répandu en Afrique avec le voyage des Arabes, tout ça. Et lorsque la colonisation est arrivée, ils se sont mis sur les traces d'Arabes. Ils n'allaient pas encore inventer une autre langue. Vous verrez donc avec l'entrée de ceux-là qui ont créé l'État indépendant du Congo, est né le Lingala. Mais à l'Est, c'était le Swahili. Et le Belge, ça les a bien servis.
Et en RDC, hein, le Swahili est l'une des quatre langues nationales. Quel rôle, professeur Bagama Arali, joue-t-il dans la cohésion nationale et dans les échanges entre les communautés, selon vous?
Donc, en l'est de la République démocratique du Congo, le Swahili joue le rôle de langue de contact interethnique. Donc, nous avons beaucoup d'ethnies donc à l'est de la République démocratique du Congo et le Swahili permet de connecter tout ce monde. Depuis donc avant l'arrivée de Français, le Swahili était déjà là. C'est ainsi que c'est la langue qui nous permet de traverser les limites administratives des ethnies.
Mais ce Swahili n'est pas universel ou parlé de la même façon partout à travers le monde. On entend souvent dire que le Swahili parlé en RDC est différent de celui de la Tanzanie ou du Kenya. Est-ce que c'est une richesse ou un problème? Est-ce qu'il faut se sentir complexé si on ne parle pas le Swahili du Kenya, de la Tanzanie, de Zanzibar par exemple? Parce que on dit que c'est ça le bon Swahili. Voilà.
Non, il ne faut pas se sentir complexé. On dit que le Swahili est né à Zanzibar, ça a grandi à Tanzanie, donc c'est devenu malade au Kenya, donc mort en Ouganda et enterré en République démocratique du Congo. Et cela exprime une vérité sociolinguistique. C'est le fait que toute langue qui occupe un grand espace subit cette question de dialecte. C'est-à-dire que les habitants qui parlent une certaine langue, donc la modifient par moyen de l'interférence linguistique avec la langue qu'ils parlent, la langue va s'accommoder à la couleur locale de langue qui existe. Par exemple, ce que nous parlons dans la rue de Bounia ici, c'est vraiment le pidgin, c'est la langue soudanaise parlée avec les mots de Swahili, parce que avec l'arrivée de Belges, on a forcé la population lindoufone qui travaillait pour la mine à apprendre le Swahili et on n'a pas eu le temps de bien l'apprendre. Et ça s'est fait comme ça pour toutes les langues. L'allemand, c'est le même problème. On a tout le monde, chaque région d'Allemagne a sa langue, mais on a un allemand standard que tout le monde apprend à l'école. Et c'est ça aussi la situation avec le Swahili. Chaque région peut avoir sa Swahili, mais on a un Swahili standard que nous devons apprendre à l'école pour nous unir tous. Et pour toutes les langues nationales, l'État met de moyens donc en position des écoles pour que ces langues soient enseignées à l'école. Mais malheureusement, depuis un beau bout de temps, il y a même des écoles privées qui n'enseignent pas le swahili et pourtant c'est une infraction pédagogique. La loi cadre dit ceci, vous pouvez ajouter des matières supplémentaires mais pourvu que toute la matière prévue par le programme soit enseignée. Et nous, même les parents, nous envoyons nos enfants dans des écoles qui n'enseignent pas le swahili. Les inspecteurs laissent cela passer, donc il y a une sorte de négligence qui commence à se généraliser, mais qui font très mal à la jeunesse congolaise.
Nous disons merci, professeur Bagamba Arani.
Merci beaucoup d'avoir rappelé à la communauté nationale cette journée.
C'était notre invité, le professeur Bagamba Arali, consultant international en sociolinguistique, qui s'entretenait avec notre confrère Jean-Claude Lokidile. Voilà qui met fin à ce journal parlé de la mi-journée, préparé pour vous par Élisée Chikota Chivueta, ensemble avec Jean-Gandou Kabongo, et mise en onde par Jean-Claude Nsiala Mwanama Kengonsoalou. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiokapi.net.